On a tous dans le cœur des crampons de ferraille usés, de petits buts bancals dans le jardin ou dans le quartier. On a tous dans le cœur une bande de copains dorés et on se croit sur canal et on se prend pour Pelé. Et le pupille chantait, un truc qui me colle encore, encore et encore. Ça faisait go, les gars. Francky, Fabien, Manu et Yolan, amis de 30 ans, vous parlent de foot, de culture et de vintage. C'est le FC Vintage. Salut Manu.
Salut, salut tout le monde.
Salut Francky.
Salut.
Salut Fabien.
Salut les gars.
Les gars, aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier parce que ce que vous allez entendre, vous l'entendrez nulle part ailleurs. On a appelé ce podcast « Les gamins en or » parce qu'on a voulu retracer nos premières sensations footballistiques. Et pour ce faire, on ne va pas vous faire le coup du « j'aurais pu être pro, mais je me suis pété le genou hein, », non. C'est pas du tout ça, mais à travers nos histoires, on a très envie de mettre en lumière votre histoire, parce que je suis certain que ce que nous avons vécu, ben, vous l'avez vécu également. Vous êtes d'accord, les copains ?
Ah, évidemment.
Oui.
Hein, on est à peu près d'accord. Là, je me tourne vers Manu. Moi, la question que je voulais te poser, c'est, tu te souviens, toi, comment tu as commencé la pratique du football ?
Ah, bah, carrément. Moi, j'ai commencé à jouer, j'habitais les Champs de la Ville à Gien, dans un quartier, et puis bah, du coup, forcément, on se retrouvait tous en bas de l'immeuble.
Alors,
et,
quartier populaire, hein.
Tout à fait. Et puis, bah, du coup, il y avait que des parties de foot endiablées en bas de l'immeuble. Alors, quand on avait la possibilité d'être nombreux entre deux arbres, voilà, ou entre des bancs, on faisait des buts quand personne voulait jouer dans le but. Donc, on faisait des petits bancs et juste le ballon passait entre les bancs, ça faisait but. Donc, moi, j'ai commencé à jouer en bas de l'immeuble.
Ok. Fabien ?
Moi, j'ai commencé à jouer dans mon jardin. Mais c'est un petit peu particulier parce que c'est pareil, ma mère voulait pas trop que je fasse du foot. Donc en fait, j'ai commencé à 6 ans à faire du judo. Et c'est à partir de 10-11 ans où je lui ai dit, écoute, là, moi, j'ai envie de faire du foot, donc jouer dans le jardin.
Et c'est là que c'est parti pour toi, en fait.
Voilà, exactement.
Et Francky, de ton côté ?
Alors moi, le foot, quand je suis petit, c'est juste un jeu de plus. Je grandis à la campagne, dans un pavillon, dans un village de 2000 habitants. J'ai pas de copains qui jouent spécialement au foot. On a une vie plutôt avec mon frangin, la Tom Sawyer. On se balade dans les bois, dans les champs, à faire du vélo toute la journée.
Bonjour à Tante Polly.
Tante Polly, ouais. Et à Eucal aussi.
Bonjour à Sid.
Ouais, mais je repeignais pas les palissades hein, toute la journée.
Non, mais c'est vrai que tu avais à peu près la même coupe avec l'arrêt au milieu.
Pourquoi tu parles mal comme ça ? Alors, et donc, les seules fois où je joue au foot, c'est quand j'accompagne mon père le dimanche au stade, puisque lui aussi joue au foot dans le club du village. Et surtout avec mon frangin où on joue dans le jardin, on s'était fait des buts sous les temps noirs et on se mettait des frappes. Ou alors contre un mur, pour ceux qui connaissent le wall ball. On passait des après-midi entiers à jouer à ça.
Ouais, le wall ball, un jeu qui a été popularisé par nos soins lors de vacances mémorables au Portugal. Dans lesquelles, j'ai ouï dire que nous avions fait une partie fortement remarquée face à une équipe brésilienne. Mais bon, allez, on s'engage peut-être sur d'autres aspects. Bah, pour ma part... Le début de la pratique du football, c'est un peu comme mes premiers émois amoureux. Ça s'est fait seul et contre un mur.
Prétentieux.
Ouais. Non, après, je me souviens à la maternelle avec mon copain Bruno. On avait des ballons de volley et il m'avait dit « Tiens, regarde, te shoot dans le ballon au pied, tu vas voir, c'est super ». Et c'est un peu comme si il m'avait dit tiens vas-y c'est une drogue tu vas voir
connerie,
tu,
ouais.
tu pourras plus t'en passer. Et en fait j'ai pris un plaisir en shootant dans cette balle. En plus on s'est fait engueuler par l'institutrice parce qu'on devait pas shooter dedans. Et je pense que ce côté interdit a encore plus rajouté de plaisir et de passion pour moi. Et vous vous souvenez de votre première licence?
Ah oui, tout à fait, moi je m'en rappelle.
C'était où toi, Manu?
Ah bah moi c'était à la Gien. J'ai un football. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai
Alors,
fait...
là, Gien Football, qu'on précise pour les auditeurs qui ne connaissent pas, Gien est une ville du Loiret, hein, qui est au sud d'Orléans. Et on peut le dire, c'est le club qui a vu naître Peggy Luyindula, le footballeur international que la plupart d'entre vous connaissent.
Voilà, et du coup, c'est là-haut que moi j'ai commencé, et ça a été grâce à quelqu'un pour rester dans les célébrités, puisque mon père travaillait à l'époque avec le père de Patrice Loco.
Ah ouais!
Et du coup, il dit, putain, mon gamin, il arrête pas de. Il veut jouer au foot, il veut jouer au foot. Et puis, le papa de Monsieur Loco, donc, il a dit, bah, inscris-le, tu t'habites à Gien, il y a bien un club de foot, va au stade. Et puis, généralement, mercredi après-midi, il y a toujours du monde, va au stade et puis inscris-le. Donc, effectivement, ma première licence, elle est venue comme ça.
Et t'as pas fait la même carrière? T'as pas fait la
Non,
même
non,
carrière.
non,
Fais pas comme si
non,
t'avais pas entendu.
non.
Francky,
Il a
tu te
fait
souviens, toi,
une
de ta
belle
première
carrière.
licence?
Alors moi, ma première licence, j'ai pas
Pas la
décidé.
licence 4, hein.
Non, bah, celle-là, je la maîtrise. Non, ma première licence, c'est surtout mes parents qui décident de m'inscrire au foot. Moi, j'étais un gamin plutôt timide, très réservé, vraiment très discret. Et je préférais, j'avais plutôt envie de faire un sport individuel, genre tennis ou natation. Et mes parents ont tout de suite refusé en me disant non, non, tu vas faire un sport co, ça va te faire du bien, tu vas connaître du monde, tu vas t'exprimer un peu plus. Et je pense qu'ils ont compris bien plus tard qu'ils avaient fait une erreur parce que j'ai une sacrée bouche, ouais.
Et toi, Fabien?
Bah écoute, moi j'ai rejoint Manu à 11 ans, parce que comme je disais tout à l'heure, on me destinait plutôt au judo à la base. Après, il faut savoir qu'au niveau famille, j'avais mon grand-père et mes oncles qui jouaient au foot, donc ça m'a vraiment.
Ah ben attends, t'as un oncle international, toi, c'est pas Lamartine qui avait joué au stade de Reims?
Ah si, alors ça c'est pas un oncle, c'est un grand. C'était le cousin de mon grand-père. Tout cousin de
Ah,
grand-père.
hey, j'ai bonne mémoire quand même, hein.
Ah ouais, qui joue à Reims et qui a joué avec Fontaine et
Avec,
Coppa.
bah c'est, il est dans la grande équipe du Stade de Reims, hein.
Ouais, il appelait le petit prince justement du parc.
Ah ouais.
Ok.
Et donc moi j'ai eu ma première licence comme ça à 11 ans, donc un petit peu plus âgé. Donc bon, après ça c'est. Et j'ai rejoint Manu parce que après je sais plus si vous y étiez là ou déjà. Francky, je sais plus.
Non, 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 je suis
Nous,
arrivé plus tard.
on est arrivé bien après, nous.
Voilà.
Oh, nous, on a voulu explorer d'autres contrées
Nous
avant.
on a fait nos gammes avant, quoi.
On a fait nos gammes, on a senti le gazon, on a senti la difficulté. Donc,
Le
c'est un
terroir. La
parti
terre.
pris.
La terre aussi. Hein.
Non, mais nous, on est les rois de la pyramide, on commence bien en bas. Hein, et puis voilà, on va pas trop haut non plus. Mais, alors, est-ce que vous vous rappelez de vos premiers entraînements, de ces moments-là, des exercices, tout ça, vous vous rappeliez de ça?
Alors moi, je m'en souviens vraiment très bien de mon tout premier entraînement. En
Oui.
fait, ça avait commencé la veille avec un cérémonial. C'est ma mère qui m'avait appris à faire mon sac de foot. Parce qu'elle m'avait dit, c'est la première
Elle
et
aurait dû
dernière
passer chez
fois,
moi.
c'est la première et dernière fois que je te le prépare. Faut que t'apprennes, quoi.
Observe
Donc
bien.
elle me met les affaires, la serviette, le shampoing aux œufs d'un litre, parce qu'elle me dit, bah tu prends la douche au stade. Bon, j'ai 10 ans, hein. Donc moi je comprends pas trop, mais bon, je fais ce qu'on me dit. Et là, elle sort de derrière son dos une boîte bleue avec écrit Adidas, et elle me sort ma première paire de chaussures de foot. Une
Ah,
paire
excellent.
de Samba noires et avec les bandes rouges, la semelle grise. Je m'en souviens comme si c'était hier.
Ah ouais, ça devait être
Yes.
carnaval là.
Ah, j'étais aux anges avec mon père qui
Ouais, j'avais
arrive et
même.
qui me dit bah, j'espère que tu joues comme les Brésiliens, sinon.
Oh.
Et donc le premier entraînement, ma mère me dépose. Je crois que c'est une des rares fois où on m'a déposé au foot. Et première surprise, c'est qu'en fait, je suis un des plus jeunes. Ils ont tous 2-3 ans de plus que moi. Donc je me retrouve dans les vestiaires avec des grands. Donc moi je suis content. Je me dis, oh, ils sont tous au collège et tout, trop bien. Donc ils parlent de filles, des bêtises qu'ils font au collège. Et là, premier écueil, c'est que je me rends compte que les lacets sont beaucoup plus longs que sur mes baskets habituelles. Et je sais pas comment on les lasse. Et donc il y a un des joueurs qui me prend sous son aile, qui m'explique, etc. Et puis après le reste de l'entraînement, en fait, j'étais à la cave parce que moi, j'avais jamais fait d'exercice de jongle, passer entre les deux slaloms, les choses comme ça. Et j'étais vraiment à la rue. D'ailleurs, je voyais les regards des mecs, le regard en coin, qui se disaient « Mais c'est quoi ce type, quoi ?» Et je m'en suis sorti à l'opposition, parce que j'étais un peu batailleur sur le terrain. Et tout de suite après, ils m'ont dit « Bah, tu reviens la semaine prochaine, c'est bon, tu fais partie du groupe. » Et là, j'étais super content.
C'est beau, ça.
Ah ouais.
Et vous, Fabien, Manu, bon, c'est vrai que vous avez évolué dans le même club au départ. On peut le dire quand même, c'était un club, c'était assez élitiste d'y aller à l'époque. Hein, parce que moi, je me souviens, j'avais tenté d'y aller. Il y avait quand même un certain niveau, mais il y avait énormément de monde à l'entraînement. Moi, je me disais, mais comment on peut se faire des copains dans cet environnement? Parce qu'il y avait, pour moi, il y avait trop de d'enfants.
Bah, je te confirme, parce que donc, du coup, l'entraînement, moi, c'était le mercredi après-midi à 14h. Et le même jour, et dans les vestiaires, aussi bien, ben voilà, effectivement, J1, c'était le club du sud-est du Loiret, mais il y avait les débutants, les poussins, les pupilles et le minime. Et les minimes,
oui,
entre 14h et 16h, il y avait tout ce monde-là dans deux vestiaires ou trois vestiaires. Et bah, on était entassés, mais c'était marrant, ça courait dans tous les sens. Et puis bah, dès que l'entraînement allait reprendre, un coup de sifflet de l'éducateur responsable et tout le monde revenait. Et puis chacun partait sur ses terrains faire ses entraînements.
Mais est-ce que vous aviez le sentiment que les éducateurs, c'était ambiance garderie, ou est-ce que vous aviez le sentiment que vous étiez en train de travailler vraiment vos gammes footballistiques à l'époque?
Ah bah oui. Enfin, moi, c'était un entraînement, ce qu'on pouvait, le truc le plus classique, quoi. Travailler de l'intérieur du pied, les remises, voilà, on faisait…
Ouais, il y avait un vrai travail,
c'était,
quoi.
C'était, voilà, même si ça ne se voit pas aujourd'hui, mais il y avait quand même une partie travail à deux, voilà. Moi j'ai le souvenir, alors peut-être pas en poussin, dès les poussins, mais il y avait quand même des exercices, il y a eu du travail, on apprenait les bases, quoi.
Bien. Est-ce que tu avais un poste déjà de prédilection à l'époque?
Non, et alors pour rebondir sur ce que dit Manu, c'est que bah, moi déjà je suis arrivé à 11 ans. Donc,
oui,
Manu...
je sais, t'as arrêté avec le judo, tu devais avoir les Jeux Olympiques, globalement on a compris. Hein,
non mais comme dit Manu, tu arrives justement dans une équipe comme ça où en fait ils connaissaient déjà les gestes et tout ça, t'avais quelque chose. Moi je suis arrivé, sincèrement je connaissais pas. Hein, et donc en fait si tu veux, t'arrives... Comme ça, donc t'as beaucoup de joueurs qui sont déjà un petit peu formés quand même, et toi t'es là, et pour l'anecdote, je m'en rappellerai toujours, c'est que les premiers entraînements que j'ai fait, en fait, c'est mon grand-père qui m'avait prêté ses chaussures.
Ah oui.
À l'époque, j'avais quand même les panards assez grands, et tout le monde se foutait
et
de ma gueule.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les coachs? Ils t'ont dit « Non, les sabots Adidas, ça se fait pas ».
Non mais tout le monde se foutait de ma gueule et donc bon je comprends maintenant hein. mais quand t'arrives comme ça dans...
C'est super touchant comme histoire, je trouve.
Ouais, c'est joli.
Parce qu'en fait t'arrives comme ça, tu te rends compte qu'en fait donc après là c'est là que ça m'a aussi, on en reparlera après, mais ça m'a forgé aussi un caractère parce que bah après tu te fais chambrer, enfin il y avait plein de choses et donc puis en plus il y avait le côté un peu quand même il fallait travailler donc
Est-ce que je peux vous dire, les gars, que pour moi, ça a été un très mauvais souvenir, mes débuts et mes premières licences?
Non, raconte-nous.
Bah, en fait, moi, je signe ma première licence à Saint-Brisson, sur Loire, qui est grosso modo, en fait, le village, pas ennemi, mais voilà, moi, je suis du village d'à côté et tout à coup, j'arrive dans un club où je suis le seul gamin de ce village. Bon, mes camarades sont plutôt sympas, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils ne me passent pas le ballon, j'ai vite compris pourquoi. Et on arrive dans un vestiaire qui est un wagon. Et dans ce wagon, il n'y a pas de lumière.
Je m'en rappelle.
Il n'y a pas de douche, il fait froid. En plus de ça, je mets des chaussures de foot qui ne sont pas du tout confort. J'ai un short moule burne qui est pas tellement adapté au froid hivernal.
À la pratique du football.
C'est clair. Et en plus, comme le vestiaire est trop petit, mes copains se sont déjà tous changés. Et moi, j'avais une angoisse, c'était de me dire, qui va pouvoir m'emmener et surtout qui va pouvoir me ramener, parce que mon papa, il était comme vos papas, il était tout le temps en train de bosser, mais lui, il était dans les champs. Évidemment, il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque. Et pendant tout l'entraînement, j'avais qu'une angoisse, c'était de dire, mais comment je vais rentrer chez moi ?
Ah, est-ce que tu savais pas s'il allait venir te chercher ?
Ah ben, il venait pas.
Ah bon ?
il venait pas, donc en général, je me débrouillais. En fait, ça a commencé à être un peu plus pratique pour moi quand mon pote Bruno a rejoint le club, et puis quand mon pote Mathieu également a rejoint le club. Et je voudrais juste faire un petit parallèle, parce que finalement, j'ai pris plus de plaisir à jouer avec Mathieu, qui était mon voisin, tous ses amis. C'était super, il avait bricolé un petit terrain de foot dans le jardin. D'un côté, il y avait la volière de son père avec les pigeons. De l'autre, il y avait une mare, donc il ne fallait pas tirer sur la volière et il ne fallait pas tirer trop fort pour que le ballon n'aille pas dans la mare. Il avait construit un bateau avec des bidons au cas où le ballon allait dans la mare. Après, il y a eu les bateaux pneumatiques pour aller chercher les ballons. On s'est fait des foot fantastiques. Et ce qui était super, c'est qu'un jour, on a eu un cousin qui s'appelle Jorgen Delva. Et s'il m'entend, je l'embrasse. Et Jorgen, il a démarré une petite carrière de gardien professionnel. Et aujourd'hui, il est kiné dans l'équipe de Courtrai, une équipe de Belgique. Et voilà, et bon, je ne sais pas s'il y est cette année, parce que j'ai vérifié, l'année dernière, il avait mis des photos sur Facebook, mais cette année, je ne sais pas. Mais Jorgen, s'il m'entend, je l'embrasse, parce que quand il est arrivé dans ses buts et qu'on a frappé et qu'on a vu l'OVNI, on s'est dit, waouh, c'était extraordinaire d'avoir ce… C'était Ed Warner, il arrêtait tout, c'était fantastique. Alors, je me suis permis ce parallèle et je voudrais en tout cas remercier Mathieu et toute cette équipe fantastique qui était, c'est un peu ma Madeleine de Proust, quoi, comme Manu racontait au Champ de la Ville, comme toi, tu racontais Francky dans le quartier de Poilly, et puis Fabien quand il était dans son jardin. On a tous ces souvenirs-là. Moi, je voulais vous demander ce que vous souvenez de votre tout premier match de foot.
Moi, je m'en souviens très bien, parce qu'il s'est passé un truc qui m'a marqué à tout jamais par rapport au foot. Donc, je me rappelle, c'était à Beaulieu, c'était en Poussin. J'avais 8 ans.
T'as pris un rouge direct
Non, pas du tout. C'est que j'ai eu le malheur de faire une tête sur le dégagement du gardien. Alors, comme ça, quand on a 8 ans, c'est pas grand-chose. Mais en plein hiver, faire une tête sur un ballon, le coq sportif qui était dur comme une pierre, dire que je crois que
les têtes,
j'en ai pas fait beaucoup. J'ai toujours fait style, je saute, mais j'ai pas touché le ballon de la tête parce que ça, je me suis dit, alors la tête, c'est pas pour moi, quoi.
Ah bah, c'est pour ça que tu faisais plus de tête alors.
Ah bah, c'est pour ça, je vous dis, ça m'a marqué à tout jamais par rapport au foot, parce que je me suis mis sous le ballon du dégagement du gardien, ça m'a calmé pendant 5 minutes et puis je me suis dit, ah bah, si c'est ça les têtes, j'en ferai plus.
Mais c'est rigolo parce que tu sais, un jour j'ai posé la question à Francky, je lui ai dit, mais balle au pied, t'es quand même pas mal quoi, parce que t'essayes toujours de ressortir le ballon proprement, parce que lui il était latéral droit et moi latéral gauche. Et j'avais remarqué qu'il arrivait toujours beaucoup mieux à ressortir le ballon que moi. Et un jour, il m'a dit, c'est normal, c'est qu'en fait, tu remarqueras, je ne fais jamais de tête. Je me débrouille toujours pour jamais faire de tête. Et ça m'avait marqué, ouais. Parce que moi, je mettais des coups quoi. Ah, mais moi, j'adorais ça. Moi, plus je me pétais la cabesse et plus j'aimais ça. Mais Francky, jamais. Donc, je trouvais ça rigolo.
Moi, pareil. Hein. J'ai fait une tête là, ce jour-là. J'y vais plus jamais.
Et toi, Fab ?
Eh ben moi, c'est pour revenir un petit peu à ce que tu me disais tout à l'heure par rapport au poste. En fait, c'était marrant parce que mon premier match, je m'en rappelle aussi. Parce que mon éducateur, j'étais entre guillemets sur le banc. Et mon éducateur, il me dit Fabien, je vais te faire rentrer. Et il me dit tu joues un petit peu, mais je savais pas moi où je pouvais jouer. Et il m'a mis derrière, arrière gauche, je crois, de mémoire. Et j'ai commencé comme ça en fait, arrière gauche.
Et tu t'es dit finalement je vais faire du judo.
Non, je voulais continuer.
Bah finalement, bon, on pourra. Peut-être que si ce podcast vous a plu, on fera aussi un peu nos brèves de district, on vous racontera nos histoires d'adultes. Mais bon, Fabien est devenu quand même un attaquant qui a quand même joué jusqu'en National 3, c'est pas mal.
Quelques matchs, après on peut pas dire que j'étais
Oui, il y en a qu'on n'a jamais fait du tout, donc c'est quand même plutôt pas mal.
et à Chartres aussi en même temps.
Et oui, exactement. Francky ?
Alors moi, mon premier match, je ne m'en souviens pas des masses. Ce que je me souviens, c'est surtout du stade de Saint-Brisson avec le fameux wagon.
Et bah voilà.
Le terrain pétri de trous de taupe. Et je suis arrivé là, je me suis demandé ce qui se passait. Alors, je crois que c'est le seul match où ma mère m'a accompagné et elle a eu la patience de suivre la partie. Et elle n'est jamais revenue d'ailleurs. Et je pense qu'elle a vite compris que je ne ferais rien dans le foot. C'était, comme à l'image de l'entraînement, j'étais à la cave en fait. Je jouais ailier droit parce que je courais vite. Mais je courais tellement vite que je poussais toujours le ballon en 6 mètres. Donc voilà, mais je m'étais éclaté malgré tout ça. Hein. Je m'étais éclaté, mais voilà, je n'ai pas plus de souvenirs que ça, quoi.
Oui, comme Manu, c'était éclaté la première fois, mais la tête, quoi. Alors moi, mon premier match, bah, c'est comme mes premiers émois amoureux aussi. Ça avait à peine commencé que c'était déjà fini. C'était à Saint-Brisson contre Bonny Beaulieu. Et en fait, je démarre le match et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai couru partout et je n'ai pas touché une seule fois le ballon. Et l'arbitre, il a déjà sifflé la fin. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ?
T'étais un aboyeur.
En fait, le truc, c'est pour vous dire la vérité.
T'es sûr qu'il y a un match ?
Je ne sais pas pourquoi. C'est une nébuleuse encore. Je fais toute la saison, je crois que je ne touche pas une seule fois le ballon. Et pourtant, je démarrais le match systématiquement. C'est fou, quoi. Et j'ai une petite anecdote qui est assez tendre. Parce que, en fait, moi, je me souviens parfaitement de la première fois que j'ai rencontré Francky. Ah. Donc, c'était à Saint-Brisson et je le vois à un moment donné intercepter le ballon. Il jouait avec des gamins sur le terrain et je le vois intercepter le ballon. Il le fait avec une facilité. Je me suis dit, waouh, il est trop fort ce mec. Et puis en plus de ça, je suis désolé, j'avais 8-9 ans. Je me dis, franchement, les blacks au foot, ils ont un truc de plus, il n'y a rien à faire. Et je ne sais pas pourquoi, vu qu'on était beaucoup de gamins, parce que tu te souviens, c'était l'association Saint-Brisson-Poilly.
Oui, c'est ça.
Il y avait eu deux matchs. Et le premier match, moi, je ne le joue pas, toi non plus. Et le deuxième match, je fais, oh ben on est tranquille, on va gagner. On a Francky. Et là, Francky me regarde avec un petit sourire, à l'air de dire, toi, c'est bon, je t'ai adopté. Mais on avait pris une pilule.
Ouais, c'est clair.
C'est-à-dire qu'entre le Francky qui avait piqué le ballon du gars sur le terrain et le Francky sur le terrain, il y avait un gap, effectivement. Mais bon, dans mon esprit, ce gars-là, ça a toujours été… voilà, je me suis toujours dit, c'est un super joueur de foot, quoi.
Sur un piédestal.
Ouais, c'est vrai.
Mais moi, je me souviens que à Saint-Brisson, tu jouais dans les buts aussi, parfois.
Oui. D'ailleurs, ça m'a été rapporté par mon ami Alexis… c'est qu'il se souvenait de ça, c'est que je jouais. À l'époque, j'étais sponsorisé par la boutique du grand-mère gardien de but. Donc, je jouais avec des chaussures, mais sans chaussettes.
Ouais.
Avec un survêtement qui me remontait jusqu'aux oreilles, que je remontais à chaque action. Et je me rappelle, je jouais avec mon pull quadrillé.
C'est ça.
En fait, hein,
c'est ça, moi je me souviens très bien. Et tu sais que mes parents se souviennent encore de toi dans les buts. C'est dingue.
Ouais.
Ah, mais c'est dingue.
Bah oui, mais voilà, ma mère m'avait dit si tu veux marquer les esprits, mise tout sur les vêtements. Et je crois que sur ce genre-là, j'aurais pas dû l'écouter. Est-ce que vous avez un éducateur qui vous a comme ça marqué par ses méthodes, par ses entraînements ou par ses conseils ?
Alors moi, c'est un entraîneur que j'ai eu en cadet quand je suis arrivé à Gien, la première année, qui s'appelait Didier. En fait, c'était un peu la vedette, une des vedettes du club.
Bah, il avait joué en deuxième division au Havre. Hein.
Ouais, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi, il m'avait très rapidement pris sous son aile, en me prenant toujours à part pour m'expliquer les exercices, en m'encourageant tout le temps. Et je reconnais qu'avec lui, j'ai beaucoup progressé techniquement. Parce que moi, en arrivant, comme tu le disais, de Poilly-Saint-Brisson, c'était Manu en parlait tout à l'heure, les entraînements, ce n'était pas du tout du même niveau. Et là, d'un coup, je me retrouvais avec des types qui étaient capables de faire des transversales, des contrôles à la poitrine. Enfin, tout ça, c'était normal pour eux, quoi.
Moi, je me souviens que tu avais, prêtre, quand tu venais refaire des matchs avec nous, là où tu m'avais impressionné, c'était dans la mobilité. C'est-à-dire que tu avais une mobilité. Alors, ça induit aussi que moi, j'avais une grande immobilité. Mais tu bougeais beaucoup et tu te déplaçais beaucoup. Et je pense que la différence près, c'est que nous, on était plutôt dans un foot loisir où, effectivement, on n'avait pas forcément ces notions-là. Et moi, j'avais été impressionné de voir tous tes nombreux déplacements. Et ça avait été quelque chose de très marquant à mon niveau.
J'avais trois poumons.
Et toi, Fabien ?
Ben moi, écoute, j'ai surtout l'entraîneur qui était Charlie sur les 3 années de junior. Où vraiment j'ai trouvé était très très juste, très très empathie envers nous. C'est quelqu'un qui était pas forcément qui était discret si tu veux, mais qui savait quand il fallait qu'on aille gagner. Enfin, on sentait la passion en fait si tu veux. Donc oui. J'ai vraiment adoré cet entraîneur là. Et puis et dans la foulée après, dans le même temps, il y avait Josip aussi qui m'a beaucoup aidé pour monter en puissance, aider au niveau des entraînements et voilà, pour essayer de monter un peu en puissance. Ouais.
Manu,
c'est plus un dirigeant, puisque footballistiquement il était un peu nul. C'était Bébert.
Ah oui.
Puisque en ayant commencé le foot donc à 8 ans, il s'est avéré que plus ou moins tout au long de ma carrière, il a toujours été le dirigeant, qu'à tel point il y en a qui croyaient que c'était mon père, parce que le gars il me suivait tout le temps. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai pu me marrer avec ce mec. Il y a mille histoires à raconter, mais les déplacements dans les camions Asseline, en pupille,
C'est Gérard Jugnot dans le film Scoot toujours. C'est le mec qui a pas de bol.
C'était les déplacements dans les camions Asseline. Voilà, on partait de Gien, on allait à Bourges. Pardon madame, le stade. Forcément les dames, elles savaient pas nous répondre le stade. Il envoyait bouler la bonne femme. Alors nous, quand t'as 10 ans, 12 ans, t'étais mort de rire sur le côté. T'en rajoutais. On
et
voyait
les hors-jeux.
Un mec dans la rue. Voilà, les hors-jeux. C'était à l'époque les hors-jeux. Jeu, il les faisait quand ça nous arrangeait, il levait le drapeau ou il levait pas. Enfin, moi je me suis vraiment marré avec cette personne, puisque c'était un spectacle à lui tout seul, quoi.
En fait, t'as raison, il était pas vraiment football si tu veux, il connaissait pas forcément beaucoup de choses au niveau football, mais par contre, il était vraiment il nous a vraiment fait marrer et il nous aimait vraiment bien si tu veux, hein.
Ouais,
on sentait qu'il aimait ça, quoi.
Mais c'est ça en fait, c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question, et c'est vrai que vous avez parlé un peu personnellement de tout cela, mais c'est parce que on voulait aussi rendre hommage à tous ces gens. C'est Charlie, c'est Didier, c'est personnes qui nous ont, c'est Josip, c'est tous ces éducateurs, c'est tous ces gens qui mouillent le maillot, c'est tous ces gens qui aiment le foot. Rétrospectivement, on se dit, mais si ces gens n'avaient pas été là, mais comment on aurait fait, quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui ont donné de leur temps, de leur amour, de leur passion du football, mais aussi de leur patience. Et quelque part, hein, c'est un peu une médaille qu'on voudrait leur adresser.
Non, ouais. c'était une autre époque, mais effectivement, c'était marrant. J'avais hâte d'être le samedi et de faire 1h30 de déplacement pour être avec les copains dans le camion, parce que c'était vraiment la récré. Voilà, les 1h30 de déplacement, parce que bon, des fois on allait jouer à Bourges, on allait jouer à gauche, à droite, assez loin. C'était vraiment 1h30 de récré.
Et tu te rappelles de l'anecdote, Manu, de quand on a eu l'accident et
que... Oui.
Il nous disait dans la voiture, bon les gars, on parle plus de l'accident là, c'est bon, hop, on va faire le match, hop. Et puis après, il dit, oh bah quand même, elle est quand même bien amochée la bagnole.
Non, c'était le camion, c'était à Saint-Amand-Moron.
C'était le camion, ouais.
Ah, c'était des sacrés sacrés souvenirs avec Daniel qu'on embrasse et on pense bien à lui. Alors, moi, je voulais mettre en lumière deux dirigeants. Je sais pas si on peut dire qu'ils m'ont marqué, mais c'était un dirigeant que j'avais à Poilly. Et pour le coup, c'était chouette parce que lui, il est arrivé Il avait le maillot, le sifflet, la tenue du footballeur. Il nous faisait faire des exercices. Et je n'avais pas du tout l'habitude de ça. Je m'en souviens, il s'appelait Nanar. Il était atypique parce qu'apparemment, il connaissait Bernard Lacombe. Et alors, il t'en parlait même quand tu allais aux chiottes. Il disait, mais je connais Bernard comme je ne te connais pas. Hein. En fait, je pense qu'à tous les...
Il en parlait tout le temps.
Tout le temps. Et je connais Bernard. Voilà. Ouais, super. Et en fait, moi, j'ai bien aimé parce que c'était quelqu'un de passionné et Camille, qui faisait vraiment des entraînements qui ressemblaient à quelque chose. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Puis un deuxième, c'est un éducateur qui s'appelait Yvon, que j'ai eu lorsque j'étais en sport-études, qui était un peu en fin de parcours. Et comme il était en fin de parcours, je pense que... Il avait plus faim, il était plus dans cette dynamique d'enseigner de la même manière. Mais moi, j'adorais lui parler, lui poser des questions et il me parlait de trucs qui étaient incroyables. Il m'a raconté et livré des anecdotes, des choses, par exemple, des échanges qu'il a eus avec Giroud à l'époque quand la SG1 jouait face à Auxerre. Ça a été, Yvon, un éducateur particulier, atypique, et il a quand même... une particularité, Yvon, et je voulais lui dédier aussi ce temps, c'est que c'est le buteur, le meilleur buteur de l'histoire de la Berrichonne de Châteauroux. Et je trouve que c'est quand même quelque chose pour lequel je voulais lui rendre ce clin d'œil puisqu'il nous a quittés, hélas, au même titre que Charlie, qui était un très grand footballeur puisqu'il avait passé le concours du meilleur footballeur lorsqu'il était en Algérie. Et c'est un sacré attaquant, Charlie, on n'a pas connu parce qu'on était trop jeunes. J'ai une question de Mathieu de Cherbourg. C'était quoi votre heure de gloire? Allez, une heure de gloire comme ça. Vous vous dites, tiens, ce jour-là, c'est, je ne sais plus si c'était Woody Allen qui disait, on a tous 15 minutes d'heure de gloire dans notre vie. Mais...
Andy Warhol.
C'est Andy Warhol, pardon, excuse-moi. Je savais que c'était un penseur. C'est quoi votre heure de gloire?
Je suis en deuxième année junior, je commence à jouer avec les seniors. Et on joue, les juniors jouent contre Châteauroux qui met des raclés à tout le monde en ce début de saison. Et Charlie, le coach de l'époque, décide de rappeler quelques anciens pour renforcer l'équipe. Et moi, je rentre sur le terrain avec la peur au ventre, sincèrement. Parce que Châteauroux, à l'époque, ils jouaient en D2, je crois, hein, leur équipe première, ils avaient un centre de formation.
Oui, enfin, c'est surtout qu'ils feront redescendre sur ce match-là. Une quantité de juniors qui, eux, avaient déjà été joués en CFA.
Ouais, c'est ça. Donc, le gros niveau. Et donc, déjà, dans le, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une espèce de petit tunnel avant qu'on rentre sur le terrain. Donc, tout le monde se jauge, on se regarde du coin de l'œil. Tu regardes le numéro du joueur que tu vas marquer. Et là, je colle le type que je dois marquer. Le match commence. Je le colle vraiment fort. Puis je prends un ballon, deux ballons, trois ballons, quatrième ballon, je lui mets un tampon. Donc je me dis, le gars, c'est bon, il est pour moi. Et sur mon deuxième débordement, en fait, j'arrive aux abords de la surface, je lève la tête, je vois personne, je suis un peu en avance. Et je me dis, bah, je vais frapper devant, il y en a bien un qui va toucher le ballon, et en fait, elle rentre direct. Et là, dans ma tête, c'est Brésil, quoi.
But fantastique. Moi, je me souviens, parce que je suis dans les tribunes, j'y étais souvent à cette période, je me souviens de ce but, il est complètement improbable, et il est magnifique, quoi. Il est magnifique, ce but.
Ah ouais, non, mais c'était vraiment la... Là, j'avoue, j'ai ressenti les plus grosses sensations de footballeur de ma vie, quoi.
Bah, j'imagine, parce qu'on avait le sentiment que rien pouvait t'arrêter, quoi. T'étais... C'était complètement improbable parce qu'elle va vraiment se loger. C'est la lucarne. Hein,
ah ouais, sens. C'est ça, c'est la lucarne.
Ah ouais, ouais. C'est lucarne opposée en plus.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Moi, j'avais un kiff sur le terrain. C'est quand l'entraîneur adverse, il pourrissait ses joueurs, ou deux, trois joueurs, en citant mon numéro. Vous allez le marquer, lui. Ah putain, j'adorais entendre ça parce que ça voulait dire que j'étais dans un bon jour et que voilà. Donc, ouais, c'était plutôt ce petit côté... que j'aimais bien.
Moi, j'ai bien aimé aussi être la... J'ai été la bête noire de Saint-Douchard. Saint-Douchard, ils arrivaient même à... Ils arrivaient même à me voir quand j'arrivais, à dire « Merde, le gars, il est là !» Parce qu'à chaque fois, contre eux, je leur ai toujours planté deux buts, je crois, minimum. Et à chaque fois, ils ont perdu. Et je crois que là, c'était un plaisir de pouvoir sentir très, très fort là-dessus.
C'était un grand club, Saint-Doulchard. Il y avait, c'est Bernard Diomène hein, qui vient de Saint-Doulchard. Oui.
Et toi?
Mon heure de gloire?
Ouais.
C'est le jour où vous m'avez accordé votre amitié.
Oh. Ah, c'est beau.
Ah, je croyais que tu avais parlé d'un but au Portugais d'Orléans.
Non, j'étais adulte, là, je ne veux pas en parler. En plus, les journalistes ne m'ont pas lâché après le match. Donc, non, mon heure de gloire, vraiment, c'est un peu… c'était très particulier. Il faut que je vous explique. Je suis à Poilly, Poilly-Saint-Brisson. Je suis pupille deuxième année. Il n'y a, a pas de pupille et il n'y a pas de minime. Il n'y a qu'une équipe de cadets. Donc, en fait, globalement, vous avez une équipe de cadets avec des gars qui sont beaucoup plus grands que vous. Vous n'êtes pas du tout dans leur délire. Et nous, à l'époque, comme on était pupille 2, on avait la possibilité de pouvoir jouer avec les cadets et de les dépanner. J'aime autant vous dire que j'ai quasiment fait aucun match de la saison.
Mais on jouait ensemble déjà. Parce que
oui. Mais moi, toi, tu jouais, toi.
Ok.
Toi, tu jouais. Il se trouve que je n'avais toujours pas rempli ma fiche d'état civil. Parce que par dilettantisme certainement, mais de toute façon, vu que je ne jouais pas l'intérêt. Et un jour, on fait un match, c'est contre Châtillon-Coligny, je m'en rappelle, et on prend un but, et là, sur la touche, il y a un des dirigeants de Saint-Brisson qui me pointe comme ça, il me dit « La prochaine fois que tu n'as pas ta fiche d'état civil, c'est pas la peine de venir !» Bon, moi, tu sais, dans ma tête, je me dis oh, « T'es gentil, mais de toute façon, vu que je ne joue pas, ça va pas changer grand-chose. » Et puis, à un moment donné, je pense qu'il a un petit moment de rédemption. Il se dit « Bon, vas-y, tu rentres. » Je rentre. Premier ballon, il y a un gars qui me fait un crochet. Je pars à Rio de Janeiro. là, il y a un mec qui arrive à côté de moi et qui me fait « Mais t'es qui, toi? T'es vraiment qu'une danseuse !» Oh, attends, c'est quoi? Ils sont pas gentils avec moi. Et puis… ballon suivant, en fait, c'est François Perrin avec Trinquant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un ballon fuyant. J'arrive, je suis là au bon moment. Et du haut de mes, 10 ans, 11 ans, j'en sais rien. Pam, je mets le ballon dans le but. Et là, tout le monde me saute dessus, quoi. Et le mec qui m'avait dit « T'es qu'une danseuse » qui arrive « Waouh, t'es trop fort, bravo !» Et
alors là… Un grand connaisseur du football.
Ouais, et alors là, si vous voulez, j'étais pas beaucoup outillé au niveau de mon slip, mais dans les douches, c'était ma petite heure de gloire, effectivement. Bon, et puisque vous avez tous frémi sur cette histoire fantastique, est-ce que vous avez un regret?
Oh, écoutez, bien sûr qu'on peut avoir des regrets. En ayant aimé autant le foot, c'était de pas avoir brillé plus haut.
Moi, j'en ai un, mais on va revenir comme tout à l'heure, c'est que j'ai commencé un peu tard.
Oui, l'histoire du judo. Alors là, quand même.
Si j'avais commencé plus tôt, peut-être.
Non, moi, je pense aussi que c'est un regret aussi de ne pas avoir commencé. Et loin de moi l'idée de faire offense à cette équipe de Poilly, parce que j'ai eu des éducateurs fantastiques, des dirigeants fantastiques, et je les embrasse. Il y avait vraiment des gens avec beaucoup, beaucoup de valeurs et beaucoup de belles choses, oui. Mais c'est vrai que si j'avais pu, peut-être démarrer avec vous en casaque jaune et bleu, j'aurais pu parfaire une technique qui était un peu défaillante. Et comme j'aimais beaucoup travailler, en plus, j'adorais ça, je pense que j'aurais certainement progressé. Mais bon, c'était comme ça, il faut pas regretter.
Moi, c'est pareil, si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir eu, la même émulation que pour Manu, qui pouvait jouer dans le quartier à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. C'est clair que Manu, il a une technique qui était au-dessus de la mienne, largement. Et j'aurais aimé avoir cette touche technique en plus et travailler plus aussi pour essayer de jouer un peu plus, au moins voir mes limites, parce que j'ai un sentiment un peu de… Je ne suis pas allé au bout du truc. Je ne dis pas que j'aurais été pro, hein, je ne pense pas. Bien au contraire, mais j'aurais peut-être pu jouer un cran au-dessus. Voilà.
Ah, t'avais un mental?
J'avais un mental, mental, mais à un moment, ça ne suffit pas. Quoi.
Un mental et un état d'esprit, et c'est aussi quelque chose qui fait la différence. Alors, évidemment, on est dans ce podcast, vous voyez, sur des choses qui nous sont quand même relativement personnelles. Hein. On est à cœur ouvert. On ne s'en cache pas, on est quatre amis d'enfance, quatre amis de 30 ans. Et notre rencontre à l'ASJ1, qu'est-ce qui fait qu'on qu'on a réussi finalement à se retrouver comme ça. Qu'est-ce qui fait que 30 ans après, on en est encore là ? Vous vous souvenez de cette première rencontre ?
Bah oui, je me rappelle, tu étais au collège.
Oui.
Hein ? T'es du tanneuse, toi, je te
reconnais. Je me souviens très bien.
Il bah, faut que tu viennes jouer, si t'es sport-études, viens jouer à Gien.
Oh putain, vous m'aviez envoyé du rêve, les gars.
Hein ?
Je m'en rappelle. Ce soir-là, j'étais rentré, j'avais des étoiles dans les yeux, quoi. Bah, c'est vrai que c'est vous deux, hein. C'est vous deux qui me. En plus, je me rappelle à l'époque, vous me dites, viens signer chez nous, on va peut-être avoir Josip comme entraîneur. Donc Josip, il faut savoir que c'est un entraîneur. Alors, il a une particularité, Josip, hein, c'est que c'est l'entraîneur de France qui a eu le plus de bancs de matchs amateurs. Hein, il avait eu un article sur France Foot. C'était un technicien, hein, Josip. Il a une connaissance du football sans pareil, hein, parce que vous regardez un match avec lui, il est capable d'analyser le schéma tactique en deux temps, trois mouvements. Et vous m'aviez vendu son arrivée en tant qu'entraîneur. Mais ce n'est pas lui qui était là. On a eu un autre entraîneur en espadrille que j'ai adoré aussi.
Hein, ah oui, moi aussi, j'ai adoré.
Ouais, on a passé des super moments avec notre Raymond qu'on embrasse aussi. Mais qu'est-ce qui justifie que finalement, on se soit retrouvé comme ça, quoi ? C'est ça le truc. Ça a bien pris tout de suite, quoi. C'est pourquoi nous ?
Bah, la déconnade. Et quel que soit le niveau, c'était plutôt le côté chambrage, le côté de se marrer. Et puis ça se finissait, ça continuait sous les douches jusqu'à pas d'heure. Et puis,
ça, c'est clair.
Et puis ça racontait encore des conneries. Ça, enfin voilà, enfin, je pense que
ouais,
c'est tout ça
groupe.
Qui fait. C'est tout ça qui a fait que
bah,
qu'on
que...
en arrivait là.
Que sous les douches, Raymond nous laissait les clés et on
ouais,
les déposait
voilà.
En partant.
On faisait des glissades,
en fait.
Ouais. Voilà. Ouais, les glissades. Mais moi, je ne sais pas, il y a un truc qui m'a toujours marqué chez vous, c'est l'acceptation. Moi, je me suis senti accepté, c'est-à-dire que j'avais un côté un peu décalé, on va dire. Et je me suis toujours senti vraiment accepté par vous. C'est-à-dire, mon côté décalé vous faisait rire. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup plu et qui m'a beaucoup touché au final.
Non, je pense qu'on avait créé comme tu dis, on avait créé autour de nous un bon groupe et le fait que tu acceptes plus facilement les autres, que c'était très important et les gens se sentaient bien en fait, c'est ça, hein, les gars se sentaient bien avec nous et puis voilà, puis nous on n'avait pas. On se chambrait, on était contents, on se marrait. C'était le principal quoi.
C'était une époque où dans l'équipe, on était tous dépendants les uns des autres sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un joueur qui était réellement au-dessus, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. À part notre gardien, ouais, c'est vrai que Bouchard était très fort.
Tu aurais pu aller plus haut, on a dit.
Je pense
aussi. Oui. Et donc, en étant dépendant les uns des autres, tu es obligé de prendre soin aussi des uns des autres. Parce que sur le terrain, c'était 11 joueurs, mais t'en enlevais un, on était en galère.
Ouais,
donc, je pense que ça a contribué aussi à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait des personnes avec qui tu étais forcément plus proche, tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait tué des joueurs au sein de notre équipe.
Et rappelez-vous,
on se moquait les uns des autres, mais on se tuait pas.
Et rappelez-vous, à mon avis, on a été gagner certains matchs où je pense que sur la feuille, on était beaucoup plus faible.
Oui.
Et on a été les chercher les victoires parce qu'on était soudés, que chacun. Il y en a un qui se faisait passer, l'autre il était derrière, hop, l'autre ne passera pas, et ainsi de suite. On était vraiment solidaires. Hein, je pense.
Et est-ce que vous vous rappelez quand on faisait les tournois, vous avez des souvenirs de tournois ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué
C'était la fête toute la journée pour moi.
Ah ouais.
Tu partais avec tes 10 ou 20 francs dans la poche que tes parents t'avaient filé pour le sandwich, tu étais avec les copains
pour faire les jeux.
Ouais, c'était la Coupe du Monde.
Tu allais déshabillais,
voir le tableau des matchs. Ouais, c'était
trop bien. Tu te déshabillais dans le camion qui était garé au fin fond du stade ou sur le parking.
Ouais,
tu demandais les clés à l'entraîneur.
Se prépare sur le terrain 2. La SG1 contre le Stade Auxerrois. Vous vous souvenez, ils avaient les maillots de circus là.
Ouais, c'est ça.
Hein?
Les tournois, c'était super, c'était la récré.
L'odeur des merguez, des frites, les dirigeants bourrés à midi et demi, et Manu qui réussissait à barber des barquettes de frites à tire-larigot. Ouais,
ça m'a valu ma carrière, ça.
En fin de soirée, il ne mettait plus un pied devant l'autre parce qu'il avait trop mangé de frites. On a quand même eu des moments super par rapport au tournoi, mais l'heure de notre heure de gloire, puisqu'on parlait d'heure de gloire, c'est quand même notre tournoi où on fait une nocturne contre le Paris Saint-Germain avec les maillots Opel et on prend une roustée phénoménale. Moi, je me souviens que j'avais passé le nez en l'air parce que j'avais un type qui était aussi grand que les Twin Towers. Et puis, je me souviens effectivement de ce moment d'anthologie où on a notre défenseur, je ne nommerai pas son nom, mais il va se reconnaître, n'est-ce pas Sébastien ? il va dézinguer l'avancante du PSG et quand on va aller lui dire « Vas-y, relève-le parce que là, tu l'as quand même découpé », il fait « Non, je ne le relèverai pas, c'est un Parisien ». Et là, effectivement, là, on s'est regardé, on s'est dit, allez, c'est un mordu, c'est un mordu. On l'embrasse, Sébastien.
Ça restera un très grand tournoi, ce tournoi. Pour ne pas le citer, c'était à Vierzon.
C'était à Vierzon.
Ouais, c'est ça, à Vierzon, ouais. Il y avait celui de Garcini aussi, on avait joué contre le Red Star. On s'était éclaté. Je ne sais pas si tu te souviens, Manu, on avait passé la soirée avec, avec les joueurs de l'INF Vichy. Où on s'était fait rincer toute la soirée.
Au Ricard.
Au Ricard.
C'est là que ça a commencé à dégringoler. Alors, est-ce qu'il y a eu un match ou un fait marquant ou un souvenir qui vous a alerté en particulier ?
Ouais, moi, un petit truc, mais rapide, juste pour montrer l'esprit de camaraderie. On est tous les deux Yolan, on est junior, on va renforcer l'équipe 3. Et dans cette équipe 3, il y a un gardien qui s'appelle Aziz, qui était une de nos idoles. Tu vois déjà de quoi je veux parler.
Ouais, bah, je suis déjà mort de rire. C'est pour ceux qui ne connaissent pas Aziz, c'est le Higuita du Maghreb.
Ah oui, c'est clair.
C'est le Higuita de l'Atlas.
Ah ouais, c'était un phénomène. En plus, il avait un look génial avec une afro, un bas de survêt Adidas noir vintage. Puis c'était un bon gardien, il se débrouillait bien quoi.
Il a fini meilleur buteur. Il a fini meilleur buteur puisqu'il tirait les pénaltys.
C'est ça. Et donc, on est à la mi-temps du match, on prend le bouillon. Donc, le coach nous passe une soufflante. Et là, d'un coup, il y a Aziz qui se lève et qui fait « On est des spectateurs
!» On fait que regarder
On est des spectateurs !» Mais ça dure 5 minutes. Et là, je suis à côté du Yolan. Je sens ce regard sur moi et moi, je me concentre pour pas me marrer. Donc, on reprend le match. Et là, d'un coup, j'entends « On est des spectateurs !» C'était Yolan et j'ai explosé de rire en rentrant sur le terrain. C'était un super moment, quoi.
Ah, il avait une particularité, Aziz, c'est qu'il nous emmenait. Nous, on était très jeunes, on n'avait pas le permis, on n'avait pas 18 ans. Il avait un kebab à la main gauche, un joint à la main droite. Et je ne sais pas comment il faisait pour conduire. Et on était toujours, tu te souviens, il y avait toujours la même bande dans la voiture. Ouais. Et c'était génial, c'était super. Manu, tu as un souvenir comme ça ?
Eh ben, écoute, moi, c'est plus un événement, je dirais, sportif, puisque en junior troisième année, on avait été filé un coup de main à la 3. L'équipe senior 3 qui jouait un barrage contre Saint-Nil-l'Hôtel, et je vous dis ça parce que mes enfants jouent dans le club de Saint-Nil-l'Hôtel Jargeau là, et j'ai vu une photo de l'équipe, j'ai reconnu 3-4 têtes ou 5-6 têtes de joueurs qui avaient joué contre nous, et donc on perdait 3-0 à la mi-temps, donc et puis bah t'as tout l'état-major qui vient dans le vestiaire, c'est pas de votre faute, c'est le résultat d'une saison, enfin bref, et puis bah on repart sur le terrain, on revient au score 3-3 et on finit aux prolongations et on gagne le match aux prolongations et on a sauvé l'équipe 3 de la descente. Bon, ce qui nous a peut-être coûté la finale la semaine d'après en Coupe du Loiret, mais bon, on était rincés.
Ah justement, tiens, en vrai, je voulais rebondir là-dessus, Manu, parce que moi c'était alors j'ai trois moments. Quand on a été appelé en cadet deuxième année, et les juniors avaient encore un match ou deux à faire, mais ils pouvaient descendre. C'était en régional, donc c'était la première division régionale. Et donc on a été appelé, et je me rappelle de ce souvenir parce que on était vraiment, ça a été dur, mais on a eu ce match-là et on était quelques-uns à être appelés cadets. Quoi, c'est pas toujours évident de jouer au-dessus comme ça. Au dernier moment, et ça, c'est un très très grand souvenir. Et à partir de là, on a commencé après à monter en régime en junior. Et après, c'est les deux, comme tu disais, c'est les deux coupes Bergerat qu'on a perdu. Et là, j'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait partie de mes regrets parce que peut-être pas sur la première, mais la deuxième, on aurait pu la gagner. Et donc, c'est là où je suis, j'étais un peu déçu, mais c'était des super moments.
Ouais, moi, je m'en souviens, je me souviens de ce match-là. Il y a mon attaquant, enfin l'attaquant de Francky qui fait un sprint. Francky, il est par terre, but. Je me dis, le pauvre, ça va être un match difficile. Après, mon attaquant qui fait un sprint, moi, je suis par terre, but. Et je ne me souviens pas grand-chose. Je me souviens juste que Manu, tu avais fait un bon match. Je crois que tu étais le seul qui était à peu près sorti du lot.
Ouais. Je sais qu'on n'était pas au niveau.
Attends, on avait fait de super parcours parce que pour arriver deux fois de suite en finale.
Oui, ben moi c'est un souvenir qui est assez incroyable, mais alors presque ubuesque. C'est un match à Dreux. on est en régional élite. Tout à l'heure, tu parlais, Fabien, c'était régional honneur. On était en régional honneur. C'était premier niveau. Premier niveau, c'était niveau de base de régional. Et là, on est en régional élite. Et malheureusement, il manque notre capitaine. Hein, c'est Manu. Manu n'est pas là. Et on joue contre Dreux. Et Dreux est une équipe avec une qualité footballistique incroyable, c'est-à-dire qu'à la mi-temps, moi de ma vie, je ne me souviens pas avoir autant été dépassé dans un match de football.
Ouais, ça allait trop vite.
Francky va pas bien dès le début, il se retrouve attaquant. Moi, c'est pareil, je suis pas bien, je monte d'un cran. Je vois que Fabien qui court, c'est extrêmement compliqué. Et l'équipe de Dreux, qui était composée exclusivement de joueurs musulmans, fait le ramadan. Et ils mangent à la mi-temps. Et là, je me rappelle, je suis à côté de toi, Francky. Et il y en a un qui fait, oh, c'est bon, on a mangé, on va les exploser.
Ouais, c'est vrai, je m'en souviens.
Alors là, on s'est regardé, on s'est dit, bon, déjà, quand
on est mort,
on a pris l'eau. Mais alors là, en deuxième mi-temps, qu'est-ce que ça va être? Et puis, bonhomme à l'an, on revient dans le match. Et on marque. Ah, tu avais mis un but, Fabien, en première mi-temps, je crois. Et on est après, on revient à 3-2. Le deuxième but, je me rappelle, c'est un lob magnifique.
Oui.
Un type qui s'appelle Vincent qui marque. Il met un lob magnifique. Nous, on dit, oui, mais allez, va chercher le ballon. On n'y croit pas. Il y a une scène ubuesque. Notre entraîneur qui veut changer notre gardien de but. Ils font réclamation parce qu'il n'y a pas le numéro et tout ça, machin. Enfin, bref, un truc de fou. Et en toute fin de match, on est à 3-2 toute fin de match, il y a un coup franc ou un corner, quelqu'un tire le corner, et là je gêne le meilleur joueur de la tête de l'équipe qui me pousse et je fais mais pousse-toi, et là un tel Patrick Debert, j'arrive, je mets un coup de casque et j'égalise 3-3. Et alors là je sens la contestation, les gars, la fin du match, ils vont sur notre arbitre de touche. Bref, on est resté un long moment dans le vestiaire. Je me souviens que l'entraîneur avait fait une fête pas possible, mais ça avait été un souvenir fantastique parce qu'on avait été zéro.
Non, on avait été nul.
Comme tu l'as dit,
Fabien, match solidaire.
C'était la camaraderie, les copains, quoi. On arrive en fin d'émission, fin de podcast. Si vous deviez faire un bilan de votre enfance, de vos années comme ça, vous diriez quoi ?
Ouais, moi, je dirais que le sport, le foot en particulier, m'a beaucoup servi et me sert toujours. Tant justement au niveau de solidarité, c'est plutôt dans l'état d'esprit. Et maintenant, je le sens et je le sais. J'ai un état d'esprit vraiment d'équipe. Et ça s'est forgé via le football et via ce qu'on a vécu, parce que moi, je trouve qu'on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. On a été tous solidaires et c'est vraiment des années qui des super souvenirs, quoi.
Si c'est pour être de nouveau pote avec vous, les gars, je ferai exactement la même chose, quoi. Je prendrai le même parcours à partir du moment où on est potes tous les quatre. Ça me comble amplement. Moi, ça m'a appris, comme Fabien, le goût du collectif. Moi qui suis plutôt, je vais pas dire individualiste, mais plutôt dans mon coin.
Ouais, t'es renfermé.
Et surtout le goût de l'effort. Vraiment, le goût de l'effort, parce que au-delà de la camaraderie, il y avait quand même un esprit de compétition qui était important, parce que sinon tu peux pas faire les résultats qu'on a fait. Il fallait gagner sa place, tout simplement. Et moi, ça m'a fait du bien, donc. Je retiens ça, quoi.
Manu ?
Moi, j'irais camaraderie, ça c'est clair. Toutes les parties de rigolade qui ont fait du bien, qui ont fait que la vie était belle, que la vie était belle. Voilà, moi, rien que tout ça. Après, effectivement, le côté solidaire, l'esprit d'équipe, tout ça, et bien sûr, ça a aussi contribué. Ça m'a aussi contribué. Mais voilà, moi, c'est aller écouter de la musique avec Francky au fond du camion. pendant les déplacements, enfin voilà, tout ça, je resigne
refaire,
tout de suite.
Ah, ouais. refaire tous les sketchs des inconnus.
Ouais, tout oui. ça, ah. à la fin, voilà, sur le parking, devant la cabine. Non, enfin tout pareil. Moi, c'est pareil. Si c'était à refaire, je le referais sans aucun problème.
Bon, on pourrait dire que notre titre, ça serait itinéraire d'enfants heureux.
Oui, ah, oui.
Hein, oui.
Et c'est pour ça que finalement, on a appelé ce podcast Les Gamins en Or, parce que cette expérience que l'on a vécue, elle était atypique, elle était décalée, mais c'était la nôtre.
Ah bah oui, non, c'est comme ça que ça a fait qu'on s'est super bien marré.
C'était la nôtre. C'était aussi peut-être la vôtre, parce que finalement, c'est la raison pour laquelle on s'est décidé à faire ce podcast. C'était de raconter notre histoire, et à partir de cette histoire, bah, peut-être que vous vous êtes reconnu, peut-être que vous vous êtes dit « Ah tiens, moi aussi, j'ai eu un dirigeant comme Bébert, ou moi, j'ai eu un entraîneur comme Charlie, ou moi aussi, j'ai eu des débuts comme Francky. » L'idée, c'était en fait de vous expliquer… Bah, le quotidien ou l'enfance d'une équipe de copains, tout simplement. Pour conclure, les gars...
On est des spectateurs.
Là, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce podcast avec vous, les garçons. Et je pense avoir votre mine réjouie que c'est réciproque. On vous embrasse, on vous souhaite à tous une bonne soirée, prenez soin de vous, et je dédie également ce podcast à ma famille dans son ensemble. Je vous embrasse tous, ciao.
Ciao, ciao tout le monde.
À bientôt.
Bonne soirée.